Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
L'idéologie du Front National. Bonjour à tous et toutes. Le Front National est solidement implanté dans le paysage politique français depuis ses premiers succès électoraux à Dreux dans les années 80. Il n'est plus un ovni politique mais un parti de masse qui pèse de plus en plus comme une menace politique à toutes les élections. Le parti auquel il faut chaque fois faire barrage mais dont le pays ne parvient plus à se débarrasser, au contraire. Depuis plusieurs décennies aussi, les travaux universitaires sur ce parti sont devenus abondants. Souvent sous l'angle de la sociologie électorale, avec l'idée que pour comprendre le FN, il faudrait comprendre l'électorat FN. Sauf que cet électorat est volatile, changeant d'une élection à l'autre sans qu'on puisse jamais en faire une photographie nette. Du coup, la connaissance n'en est que plus floue sur ce parti. Peut-être alors y a-t-il d'autres moyens d'entrer dans le phénomène Front National, par exemple en s'intéressant à son idéologie, ou plutôt à ses idées au pluriel, tant il semble que le Front opère régulièrement la synthèse d'un certain nombre de doctrines bien connues qui se sont développées en France depuis le tournant du 19e et du 20e siècle. Il ne fait pas qu'agréger les déçus en un vote protestataire, il a aussi une vision du monde bien précise, avec des invariants. Son entreprise de dédiabolisation n'est qu'un ravalement de façade, car les inspirations et les fondements idéologiques du parti sont toujours les mêmes. Boulangisme, antisémitisme, nationalisme ethnique, xénophobie, complotisme, nostalgie du pétainisme et de l'Algérie française et désormais national-socialisme. Mon invité Grégoire Kaufmann a entrepris de faire une solide généalogie de la doctrine actuelle du FN. Afin d'y voir plus clair, il faut déplier le discours frontiste pour en apercevoir les strates historiques sédimentées. Car si le FN s'adapte à la conjoncture, notamment la crise économique, il le fait toujours en mobilisant divers éléments clés de ses positionnements historiques. Bonjour Grégoire Kaufmann.
Bonjour.
Grégoire Kaufmann, vous êtes historien, historien des idées, spécialiste des extrêmes droites françaises et intervenant à Sciences Po Paris. Vous avez écrit plusieurs livres, dont une remarquable biographie d'Édouard Drumont, pamphlétaire antisémite, auteur de La France juive. Cette biographie a obtenu le prix du Sénat en 2009 et a fait l'objet d'une adaptation en téléfilm par Emmanuel Bourdieu en 2013 avec Denis Podalydès dans le rôle de Drumont. Je vous reçois aujourd'hui pour votre dernier ouvrage, Le Nouveau FN, Les vieux habits du populisme, qui est paru aux éditions du Seuil, collection La République des idées, en septembre 2016. Grégoire Kaufmann, je voudrais qu'on commence cette émission en partant du Front National de 2016. Voilà un parti qui se présente désormais comme populiste, soucieux du sort des ouvriers, des petites gens, défendant l'État-providence contre les banques et contre le système. Alors les banques, le système, disons les attaques contre l'oligarchie, on connaissait. La défense des acquis sociaux, c'est un peu plus nouveau. Au FN, il y a là un premier élément de nouveauté, de changement.
Alors c'est un élément nouveau, en effet, si on compare le programme du Front National de Marine Le Pen à celui qui était celui de son père, donc dans les années 1980. Il est vrai que dans les années 1980, Jean-Marie Le Pen défendait un programme ultra-libéral. Il s'autodéfinissait d'ailleurs comme le Reagan français. Il prenait aussi Margaret Thatcher ou Richard Nixon parmi ses sources d'inspiration, avec cette dimension anti-étatiste, anti-dirigiste, arc-bouté sur la défense de la libre entreprise et des petits commerçants menacés dans leur autonomie financière par l'État Moloch, l'État interventionniste. Donc il y avait chez Jean-Marie Le Pen à cette époque-là et au sein du premier Front National un anti-étatisme, un anti-dirigisme qui était en partie dicté d'ailleurs par un anti-socialisme et un anti-communiste. En fait, Jean-Marie Le Pen évidemment passait son temps à cette époque à dénoncer les socialo-communistes. Il avait donc évidemment peu d'appétence pour la dimension étatiste d'un programme reposant, comme celui du Front National aujourd'hui, sur la réhabilitation des services publics ou encore la valorisation des services dans les communes ou encore cette manière de mettre l'accent sur la nécessité, par exemple, de nationaliser les banques, de sortir de l'euro, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un discours nouveau au sein du Front National de Florent Philippot et Marine Le Pen. Mais cette rupture date finalement des années 1990. Il faut attendre en fait 1995. On est au moment en fait de l'essoufflement des vieilles mythologies révolutionnaires. C'est la fin de la guerre froide et on est aussi au moment où le Front National commence vraiment à gagner du terrain parmi dans ces terres qui étaient habituellement hostiles à l'extrême droite, c'est-à-dire notamment les anciennes terres ouvrières de tradition socialiste ou communiste. Et on va voir le Front National devenir à cette époque le premier parti ouvrier de France et on va voir un recentrage du discours sur la défense finalement des ouvriers et de l'État-providence. Et cette rupture date de 1995 symboliquement puisque c'est à cette occasion lors de l'université d'été du FN qui a été lancé le slogan ni droite ni gauche qui est encore aujourd'hui celui du Front National qui est encore aujourd'hui donc qui inspire encore aujourd'hui la ligne de Marine Le Pen. Et ce slogan ni droite ni gauche était déjà connecté en fait à une forme de réhabilitation en fait du dirigisme et de l'étatisme. Donc voilà, c'est quand même une influence qui vient de loin même si elle correspond pas à l'ADN du Front National des années 70 et 80.
Restons alors sur ce ni droite ni gauche qui est en fait un slogan que les historiens connaissent puisque il vient en fait de la France des années 30. Est-ce que vous pourriez, Grégoire Kaufmann, nous expliquer c'était quoi? C'était l'idée d'une troisième voie, ni libéralisme ni communisme, c'était à peu près ça, le ni droite ni gauche dans les années 30.
Oui, c'était ça, c'est-à-dire c'était l'idée de chercher, comme vous le dites, une troisième voie entre communisme et capitalisme. Et donc c'est le ni droite ni gauche a été lancé par la première fois en 1934 par un homme politique d'ailleurs qui avait fait ses premières armes à gauche qui s'appelait Simon Sabiani et qui allait rejoindre peu après le Parti populaire français de Jacques Doriot où il allait justement batailler pour imposer ce slogan ni droite ni gauche français, c'est-à-dire cette volonté de dépasser les clivages traditionnels et dépasser les traditionnels clivages politiques pour dégager les possibilités d'une troisième voie. Alors aujourd'hui, la ni droite ni gauche de Marine Le Pen, il est quand même assez différent de celui qui pouvait avoir lieu dans les années 30, dans la mesure où l'anticommunisme aujourd'hui ne fait plus vraiment recette au sein du Front National. Il est un peu considéré comme un archaïsme, une idéologie un peu fossilisée. L'anticommunisme, évidemment, comme le danger communiste du point de vue du Front National, a disparu. Le ni droite ni gauche ne doit plus être pensé comme étant aussi dirigé contre le communisme. En revanche, l'antilibéralisme est resté très très présent. Et dans le ni droite ni gauche des années 30, il y avait aussi cette volonté de parler aux ouvriers, de parler en fait aux classes populaires, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le discours du nouveau Front National.
Est-ce que ce ni droite ni gauche, c'est pas aussi, alors évidemment, un refus de se positionner sur un spectre gauche-droite qui serait trop figé, est-ce que c'est pas aussi une manière pour le FN de dire qu'il n'est pas un parti comme les autres ou qu'il est un parti anti-parti, ce qui était aussi une tradition en France depuis les années 30, on avait des partis qui ne jouaient pas le jeu du système partisan?
Tout à fait, en fait, c'est le vieux discours anti-système qui dès le surgissement du populisme à la française à la fin du 19e siècle est déjà très présent au cœur de ce discours, c'est-à-dire en gros c'est un peu le discours tous pourris et c'est cette volonté de se démarquer des élites avec une dénonciation évidemment à la fois des élites politiques et des puissances financières que l'on retrouve aujourd'hui au sein du nouveau Front National. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui des personnalités comme Florent Philippot ou Marine Le Pen dire que le clivage droite-gauche ne correspond plus à rien quand on regarde évidemment l'horizon d'attente des Français et que à ce clivage droite-gauche il faut substituer un nouveau clivage qui serait le clivage entre patriotes et mondialistes. C'est-à-dire qu'il y a une vision duale et assez manichéenne du Front National aujourd'hui qui finalement répartit en fait les Français en deux catégories. Il y a ceux qui défendent la nation et il y a ceux qui seraient en quelque sorte les tenants d'un mondialisme qui déracine, qui dénationalise et qui arrache l'individu à sa patrie et à ses origines. Donc c'est aujourd'hui cette bipolarité qui constitue la grille de vision du monde du Front National, sachant qu'elle trouve un certain succès puisqu'elle correspond en même temps à cette époque où on voit s'épuiser les vieilles mobilisations partisanes héritées du XXe siècle. Donc on assiste là à une séquence assez intéressante qui se retrouve également d'ailleurs dans le discours des autres partis populistes européens.
Grégoire Kaufmann, pour rester sur ce ni droite ni gauche, on a aussi le sentiment, et vous venez de le rappeler, que le nouveau nouveau Front National emprunte aussi quand même des idées à la droite et à la gauche, et que l'itinéraire par exemple d'un Florian Philippot souverainiste, chevènementiste qui passe au FN, où vous mentionnez dans votre ouvrage le cas de, je crois que c'est Jacques Sapir, économiste proche du Front de Gauche et qui finalement récemment a dit on pourrait tout à fait travailler avec le FN, ça rejoint effectivement ce clivage-là dont vous parliez entre patriotes et mondialistes, mais c'est aussi l'importation d'idées qui étaient plutôt dans le logiciel de gauche, notamment sur voilà, le souverainisme, l'État souverain, l'État et ses frontières, l'État interventionniste. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans le nouveau FN ?
Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on se réfère à l'archéologie, finalement, du Front National dans son discours ni droite ni gauche, et ce phénomène aussi de captation de personnalités venues de la gauche, gauche événementiste ou gauche radicale, enfin, finalement, on s'aperçoit que ça s'enracine dans un terreau historique très, très ancien. On oublie souvent de signaler qu'en fait, le nationalisme, initialement, en fait, il surgit à gauche de l'échiquier politique. C'est la Révolution française, c'est le thème de la patrie en danger, c'est la dénonciation de l'ennemi intérieur qui surgit au moment de l'invention de l'État-nation en tant qu'idée, en tant que concept, et ce moment-là, c'est la Révolution française qui l'invente, notamment au moment de la terreur, avec encore une fois, cette valorisation de la nation, pensée uniquement à travers les forces qui lui seraient hostiles, à la fois l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur. Alors évidemment, on assiste, dès la Révolution française, à un discours républicain qui se partage en fait en deux aspirations un peu contradictoires, ce républicanisme de repli, un républicanisme xénophobe, statique, et puis une tradition plus universaliste, plus ouverte à l'altérité, plus ouverte à la différence, et de tonalité plus libérale. Et on va voir donc ces deux traditions républicaines entrer en conflit tout au long du 19e siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est que on va voir donc des petites chapelles républicaines, souvent d'obédience socialiste, qui vont essaimer tout au long du 19e siècle avec des personnes un peu tombées dans l'oubli comme Blanqui et plus tard plus connu le général Boulanger, qui surgissent sur la scène politique en se réclamant de la République pure et dure, en se réclamant d'un jacobinisme d'exclusion, souvent d'ailleurs très anti-marxiste, et qui va valoriser l'identité nationale et la nation dans sa tradition la plus républicaine. Et donc, il y a un discours quand même de gauche, anti-système, qui en appelle à la République plébiscitaire, souvent avec un discours très référendaire, un appel à l'autorité, mais qui coexiste avec une tradition républicaine, et c'est aussi cette vieille tendance que l'on voit ressurgir à travers leur discours d'un Florian Philippot, et on voit d'ailleurs également cette valorisation de la démocratie directe, cette méfiance à l'égard de la démocratie représentative ou parlementaire, et c'est un discours qui naît à gauche, et le boulangisme en est d'ailleurs la première expression de masse. Le boulangisme, au début, c'est un phénomène qui vient de la gauche radicale, donc ultra-républicaine, mais un républicanisme encore une fois défensif, un républicanisme hanté par le mythe de la décadence et valorisant les grands ancêtres de la Révolution. Et on voit dans le nouveau discours ultra-républicain du nouveau Front National ressurgir cette vieille tendance avec, encore une fois, un républicanisme qui est un peu la face grimaçante de l'héritage de la Révolution française.
Restons sur cette question du plébiscite. Il y a au FN une revendication du populisme. On a vu que c'était un mot qui faisait retour, qui est un mot compliqué à manipuler, mais qui là est revendiqué par le parti. Ce populisme, c'est quoi ? C'est effectivement le plébiscite, c'est l'autoritarisme, l'appel au chef. Comment est-ce qu'on pourrait caractériser le populisme du FN, Grégoire Kaufmann ?
On disait un discours anti-élite, anti-système, la valorisation des petits contre les gros, une manière aussi d'en appeler au coup de balai salvateur contre les dirigeants corrompus, et également le mythe de la décadence. On insiste toujours dans ce discours populiste à une vision très crépusculaire de la modernité, une manière... un discours de la déploration et un appel aussi à la fois à la démocratie directe et à la fois à l'autorité. C'est-à-dire, il faut que le pouvoir soit incarné, il faut en finir en gros avec la République des partis, et il faut passer par le référendum ou le plébiscite pour personnaliser le pouvoir et donner plus de moyens à l'exécutif. Ça, c'est un discours que l'on retrouve dans tous les courants populistes en fait en Europe aujourd'hui et qui est pleinement assumé par le Front National.
Je voudrais qu'on écoute une interview de Jean-Pierre Stirbois, membre fondateur du FN, qui est décédé en 1988. Il est interviewé ici dans un reportage d'un journal d'Antenne 2 de 1983 présenté par Noël Mamère.
Monsieur Stirbois, est-ce que vous n'avez pas en quelque sorte attisé un feu qui couvait ici à Drôme ? Oh, je ne pense pas. Je crois qu'il y a une situation donnée avec plus de 30% d'immigrés à Dreux, avec une montée de l'insécurité, une montée du chômage. Et j'ai toujours dit que cette montée de ces deux phénomènes était liée à la progression constante du nombre des immigrés à Dreux. Je crois que j'ai dit tout haut ce que la majorité des Drouais pensaient tout bas. Je crois que j'ai eu une action à caractère préventif.
Si ce problème existe à Dreux, en quoi est-il imputable à la gauche ?
Il est imputable à la gauche parce que celle-ci a la volonté de transformer la société française. Le Parti Socialiste a toujours dit par la voix de M. Autain, du Bedou, de Mlle Gaspard, qu'il fallait que la société française se transforme en société pluriethnique, plurinationale, pluriculturelle et plus multiraciale. Et qu'ainsi, lorsque nous constatons que M. Mitterrand, dans sa proposition numéro 80, veut accorder le droit de vote des immigrés, c'est pour le Parti Socialiste la possibilité de conserver le pouvoir politique.
Si vous êtes élu, est-ce que vous allez chasser les immigrés de Dreux ?
Je crois que j'ai une position tout à fait normale, tout à fait pondérée et modérée, dirais-je, puisque j'ai la même position que M. Marchelli, qui est un responsable important de la CGC, qui n'est pas un extrémiste. M. Marchelli a dit qu'il fallait renvoyer dans leur pays d'origine les immigrés qui sont depuis moins de 10 ans sur les territoires nationaux. Je suis personnellement favorable à cette proposition.
Ça ne vous gêne pas si on vous dit que ce genre d'argument a des relents fascistes ?
M. Marchelli est-il fasciste ?
La valeur de l'homme, l'idéologie du Front National, nous sommes en compagnie de Grégoire Kaufmann. Grégoire Kaufmann, cette question de l'immigration, là qu'on entend dans la bouche de Jean-Pierre Stirbois, c'est vraiment quelque chose de très fondateur. La lutte contre l'immigration, l'immigration de travail, l'immigration sauvage, enfin le terme change avec le temps, c'est vraiment quelque chose qui est au fondement du Front National.
Alors non. Bizarrement, non, puisque lorsque le Front National est créé en 72, Jean-Marie Le Pen ne veut pas vraiment exploiter cette question de l'immigration. Il est assez méfiant à l'égard de ce sujet-là. Il faut savoir qu'on est au moment du vote d'une grande loi antiraciste qui proscrit tous les appels à la discrimination raciale, etc. Il y a un consensus de la classe politique à cette époque pour rejeter le discours anti-immigré et rejeter le racisme. Et donc Jean-Marie Le Pen, au début, est un peu tâtonnant par rapport à cette question et sous l'influence de ces cadets du mouvement Ordre Nouveau, le mouvement néofasciste qui va donner naissance au Front National et qui va aller chercher Jean-Marie Le Pen en fait pour représenter ce mouvement à cette époque-là, et bien sous l'influence notamment d'Ordre Nouveau et de cette tradition nationaliste révolutionnaire, et notamment sous l'influence d'un personnage qui a un rôle très important à l'extrême droite qui s'appelait François Duprat, qui est mort dans une explosion à la voiture piégée en 1978, et bien c'est sous l'influence de cette tendance représentée par Duprat que au fil des années 73, 74, 75, 76 et surtout au moment des élections législatives de 78, c'est à ce moment-là que Jean-Marie Le Pen va comprendre qu'il y a peut-être là un filon par rapport au discours anti-immigré et qui va en fait exploiter ad nauseam ce rejet de l'immigration. En plus, on est c'est l'époque du regroupement familial, il sent qu'il y a peut-être aussi des tensions à l'œuvre, il va au sein de la société, il va tenter de les exploiter, mais au début c'est pas tout à fait sa tasse de thé, donc il faut attendre quelques années avant que Jean-Marie Le Pen se saisisse pleinement du discours anti-immigré pour en faire un argument de propagande électorale. Bon, parallèlement, il a quand même aussi des discours qui s'enracinent vraiment dans l'imaginaire des droites radicales, avec une vision très familialiste, des relents d'antisémitisme, etc., etc. Mais le discours anti-immigré, anti-maghrébin en tant que tel, il faut attendre un petit peu avant encore une fois, qu'il devienne prédominant au sein du Front National. Alors après, dans les années 80, évidemment, ça devient la doxa au sein du Front, c'est-à-dire que c'est évidemment un parti qui va d'élection en élection gagner des voix, puisqu'il dénonce évidemment l'immigration, mais là on assiste aussi à quelque chose d'un peu nouveau. Alors certes, c'est aujourd'hui encore le fond de commerce de Marine Le Pen, mais Marine Le Pen, de manière plus habile et de plus euphémisée, dénoncera évidemment l'immigration, mais également l'islam. C'est-à-dire, elle dénoncera moins les Arabes, en gros, à l'époque de Stirbois, que l'islamisme galopant, etc., le communautarisme. Il y a une manière aussi de gommer les aspérités les plus choquantes du discours pour, encore une fois, sembler moins clivante et dénoncer davantage l'immigration à travers l'islam. Ça, c'est une nouveauté au sein du Front National, puisque elle date finalement d'une époque très très récente, puisqu'il faut vraiment attendre 2009 pour que Marine Le Pen comprenne que le discours anti-islam pouvait également représenter un fonds de commerce électoral et qu'elle s'engouffre dans la brèche et l'exploite encore une fois. On le voit aujourd'hui, puisque ça fait évidemment partie des poncifs du Front National, mais c'est un phénomène assez nouveau, puisque Jean-Marie Le Pen dénonçait l'immigration, mais il avait une posture un peu ambivalente par rapport à l'islam. Pour lui, en gros, l'islam, c'était une religion émollient, voire tempérante, en gros, pendant que les immigrés allaient à la mosquée, eh bien, il y avait l'ordre dans la rue. Ouais. Donc, il y avait cette vision un peu paternaliste de l'islam, héritée d'ailleurs des vieux préjugés coloniaux. C'était tout à fait la vision de Jean-Marie Le Pen. Donc, il avait un peu de la difficulté lui-même à faire fond sur ce discours anti-islam. Et Marine Le Pen, elle, très tard, mais au moment où elle commence vraiment à être désignée comme l'héritière en titre, va se saisir de ce discours, et c'est la fameuse déclaration sur l'assimilation des prières de rue à l'occupation en 2009. Donc voilà, tout d'un coup, elle va comprendre qu'il y a quelque chose là qui peut évidemment recueillir du succès au sein du traditionnel électorat frontiste et au-delà. Ce qui est intéressant aussi, je fais une petite incise, ce discours-là, il avait été exploité 10 ans auparavant par Bruno Maigret, qui, on se souvient, avait violemment rompu avec le Front National en 1998-99. Et Bruno Maigret, lorsqu'il fonde son petit parti, le MNR, immédiatement, il accorde une large place à l'islam. Et en fait, on s'aperçoit que Marine Le Pen a fait un peu un copier-coller avec la propagande de Bruno Maigret, qui avait étroitement s'inspiré des arguments de Bruno Maigret contre l'islam, qui avait théorisé déjà ce discours pendant des années avant que Marine Le Pen ne s'en empare. Et c'est intéressant, puisqu'on a vu d'anciens disciples de Bruno Maigret revenir aux côtés de Marine Le Pen au moment même où celle-ci allait succomber à la rhétorique anti-islam.
Cette rhétorique anti-islam, elle lui donne la forme d'un choc des cultures, c'est-à-dire qu'on passe d'une dénonciation de l'immigration comme problème économique à la dénonciation de l'islam comme problème culturel dans une société française qu'on ferait aller vers le multiculturalisme à marche forcée. Stirbois prononce le mot d'ailleurs, pluriculturel ou multiculturel. C'est ça aujourd'hui la forme que lui donne Marine Le Pen, c'est-à-dire le refus d'une société multiculturelle ou une société française qui serait fragmentée par la présence de la culture ou de la religion musulmane en France. Ce serait ça, a priori, hein, Grégoire Kaufmann, dans le discours du FN.
Tout à fait. On est passé, en gros, ça c'est un phénomène qui concerne tout le XXe siècle, on est passé en fait d'un rejet de l'autre envisagé à travers ses origines, à travers la dimension ethnique. En fait, on est passé en gros d'un racisme à dimension inégalitaire, en fait, au fantasme du choc des civilisations. Aujourd'hui, on ne va plus dénoncer chez l'autre une catégorie raciale, mais la différence qu'on ne peut pas admettre chez soi. D'ailleurs, ce qui est intéressant, lorsqu'on voit les supporters de Marine Le Pen à chacun de ses discours, ils disent « on est chez nous, on est chez nous », ce qui veut dire qu'en fait, en creux, eh bien, qu'ils ne sont pas chez eux. Et d'ailleurs, Marine Le Pen a bien réussi à saisir en fait ce passage d'un racisme inégalitaire à un différentialisme culturel. Lorsqu'elle dit, par exemple, « moi, quand je suis à Rabat, j'aime beaucoup le Maroc, j'aime Rabat, j'aime leurs couleurs, j'aime leur cuisine, mais quand je me retrouve dans le sud de la France à Beaucaire, j'ai pas envie de me sentir à Rabat. » C'est exactement ça. On est passé du racisme à la haine de la différence, à la phobie de l'altérité, à la phobie du mélange. C'est d'ailleurs ce qu'on pourrait appeler la mixophobie, pour reprendre un néologisme introduit par Pierre-André Taguieff, tout à fait. C'est-à-dire cette phobie du mélange, cette phobie de la différence. Il s'agit pas de théoriser une inégalité entre les civilisations, mais de considérer qu'il y a une dimension statique au sein de chacune d'entre elles et que les peuples ont intérêt à rester en dehors de toute possibilité de mélange. Ça, c'est aussi ce qui caractérise le nouveau FN et qui permet aussi d'euphémiser la parole raciste, puisque on est dans un combat beaucoup plus culturel que racial, en fait, ou ethnique.
Oui, et qui tombe beaucoup moins sous le coup de la loi. Je voudrais qu'on reste sur cette idée-là d'un nationalisme très fort. On va écouter la déclaration de candidature de Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle, sa première candidature. On est en 1974.
Françaises, Français, merci de m'accueillir chez vous ce soir et de m'accorder ces quelques minutes d'attention. Dans quelques jours, nous allons ensemble élire un président pour la République et choisir une politique pour la France. C'est pour nous tous un grand honneur et une grande responsabilité. Nous avons la chance, en effet, d'être des Français. C'est-à-dire que par le seul fait de notre naissance, les enfants d'une nation très ancienne et très illustre, très belle aussi. C'est elle qui assure la sécurité de notre peuple, sa liberté, son espoir. En retour, nous lui devons le respect, l'amour, et aussi nous devons, s'il le faut, mourir pour elle. Au moment donc de nous déterminer, nous aurons à nous élever le cœur et l'esprit, au-delà même de nos légitimes aspirations personnelles, et à penser que nos actes, que nos décisions vont peser sur le destin de la France.
La valeur de l'homme, l'idéologie du Front National, nous sommes en compagnie de Grégoire Kaufmann. Grégoire Kaufmann, l'autre grand point doctrinal du FN, c'est le nationalisme. Un nationalisme ethnique ou un nationalisme culturel, c'est-à-dire un nationalisme fermé. Ça, c'est quelque chose qui dure et qui est vraiment fondateur.
Oui, c'est la valorisation de l'identité nationale conçue presque comme un organisme vivant avec évidemment ces professions de foi qui considèrent la nation française comme étant demeurée figée, une vision très déterministe en fait de l'identité nationale. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on écoute ce discours de Jean-Marie Le Pen, ce Jean-Marie Le Pen donc, qui vient de lancer le Front National, il parle de nation mais il parle absolument pas de république. Or aujourd'hui quand on lit les discours de Marine Le Pen, la République est présente à chaque phrase, c'est-à-dire il y a un champ lexical de la République, du triptyque républicain, notamment liberté, etc., égalité, un peu moins fraternité,
non,
liberté,
laïcité, égalité,
laïcité, etc. C'est-à-dire qu'il y a, c'est là où on voit ce qu'est le nouveau FN et qu'il y a en fait une grande inversion, une grande évolution qui distingue bien le Front National de Jean-Marie Le Pen de celui de sa fille aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen a utilisé toutes les armes traditionnellement mobilisées contre le Front National, c'est-à-dire défense de la République, défense de la laïcité, défense des homosexuels, défense aussi des juifs en but à l'antisémitisme, etc., etc. Elle a réussi à récupérer, à préempter tous ces arguments qu'on mobilisait auparavant contre le Front National pour se les approprier, pour les diriger contre un nouvel adversaire qui serait le nouveau totalitarisme liberticide qui serait l'islamisme, en creux, en gros, l'islam. C'est-à-dire, voilà, on assiste à cette tentative de captation et non sans succès. Marine Le Pen, par exemple, lorsqu'elle invoque le droit des femmes, c'est évidemment par rapport à l'islamisme et à la femme considérée comme infériorisée par l'islam. Pareil par rapport au droit des homosexuels, puisqu'elle sait que dans certains quartiers, il y a des problèmes qui se posent. Voilà, voilà. Donc voilà, il y a cette espèce de grande confusion, c'est-à-dire qu'une appropriation des grands thèmes républicains, de la rhétorique républicaine, ultra-républicaine qu'on voit aujourd'hui chez Marine Le Pen, mais dirigée contre un seul et même adversaire, c'est-à-dire l'islam, l'islamisme, mais également aussi contre l'Union européenne, cette idée de la dépossession, d'une perte de souveraineté, etc., etc. Donc voilà, il y a quelque chose de très habile et de très nouveau au sein du Front National qui consiste précisément dans ce détournement qui est très nouveau et c'est pour ça que les adversaires du Front National sont bien obligés d'inventer des outils rhétoriques pour comprendre ce nouveau FN et pour essayer de le combattre sur ces terrains-là. Et on dit, excusez, ces valeurs, en fait, elles nous appartiennent pas. Il faut évidemment les lui disputer. Et ça montre aussi l'épuisement de la vieille rhétorique antifasciste qui a longtemps été celle utilisée pour combattre le Front National, notamment dans les années 80. Enfin, la réduction ad Hitlerum en fait a fait son temps et d'ailleurs elle a profité au Front National qui s'est servi de cette rhétorique de combat de la part de ses adversaires pour se victimiser et pour engranger, je pense, du capital électoral. Donc ce nouveau Front National, il exige justement un effort de réajustement de la rhétorique antifrontiste. Il invite à penser de nouveaux concepts aussi pour combattre ce mouvement qui, je l'ai dit, fait surgir un vieux républicanisme xénophobe qui fait partie de l'héritage républicain et qui valorise également une vision, à mon sens, très anxiogène et très, très défensive et très sommaire, en fait, de la nation conçue comme un vivre ensemble.
C'est aussi ça, et ce sera ma dernière question, qui fait que c'est ce nationalisme historique venu de l'antidéréfusisme qui fait que, au fond, la question de l'antisémitisme, même si elle est un peu cachée, elle n'a pas complètement disparu du Front National.
Alors, sur la question de l'antisémitisme, évidemment, on n'en est plus à l'époque de Jean-Marie Le Pen, les calembours, les jeux de mots sur les chambres à gaz, etc., etc. Évidemment, Marine Le Pen, elle a bien compris qu'il fallait évidemment pas aller dans cette direction-là, ça serait se tirer une balle dans le pied et puis ruiner d'un coup, c'est la stratégie de dédiabolisation. Il serait difficile d'affirmer que Marine Le Pen aujourd'hui est antisémite. En revanche, elle est entourée de conseillers qui, dans l'ombre, sont directement issus d'une tradition antisioniste et antisémite. Je veux parler des anciens Gudard, le GUD, donc ouais. Le syndicat étudiant d'extrême droite, dont certaines figures continuent à l'entourer aujourd'hui. Je pense à des personnages comme Frédéric Chatillon, Axel Lousteau, Philippe Péninck, qui ne sont pas dans l'organigramme officiel du Front National, mais qui restent tributaires d'une vision extrêmement antisémite, sécessionniste, qui continue de jouer un rôle très influent auprès de Marine Le Pen, et notamment conforte aussi en elle le discours anti-américain, anti-impérialiste. Ça, c'est la vieille tradition, le vieil héritage du nationalisme révolutionnaire. Donc non, le Front National n'est pas débarrassé de l'antisémitisme. D'ailleurs, quand on regarde les sondages, c'est quand même le parti, l'électorat, les militants du Front National, ils sont beaucoup plus antisémites que ceux des autres partis. Donc il y a quand même au moment de la sociologie électorale, on voit qu'ils sont plus antisémites que les autres. Au sein des structures dirigeantes officielles du FN, évidemment, il n'y a pas de propos antisémites aujourd'hui qui sont tenus.
Merci beaucoup, cette émission s'achève. Je vous remercie encore chaleureusement, Grégoire Kaufmann, d'être venu. Je rappelle le titre de votre livre, Le Nouveau FN, les vieux habits du populisme, aux éditions du Seuil, qui est sorti il y a quelques semaines, là, en septembre. Merci à Emmanuel Demisco, à la technique. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt.